Et maintenant, réclame.
4 x 3, 21. 5 x 7, 192. 6 x 8, 10 000.
Vous avez toujours cherché à avoir plus? Nous, à l'UMP, on a Sarcoplus. Sarcoplus, c'est plus étrangers dehors. C'est plus de privilèges pour les riches. C'est plus de misère pour les pauvres. C'est plus d'insécurité pour mieux réprimer. Sarcoplus, adhérez. Bye bye.
Madame, hier, mercredi, il faut que vous le sachiez, et pas seulement dans l'alcool, on ne teste pas le répondeur. C'est lui qui vous teste ou vous déteste. Toi, le voyageur égaré qui connaît tant d'horizons, méfie-toi de Sisyphe qui n'est pas la moitié d'un con. Partout, de la terre aux étoiles, sur les routes, les chemins, les sentiers, les raidillons, Sisyphe tient péage, exige octroi, tranche et taille sa gabelle, puis te pique ton baluchon. Ce roi jaloux n'en finit plus de s'étendre. Pour lui, tout se résume à acheter ou vendre et prendre. Sa cruauté bornée s'exerce sur tout ce qui bouge, et les bornes en sont comme autant de repères, les auberges rouges. Les vers de Mirliton, à base de rime en on, sont le signe con d'une mauvaise digestion, mais nous y reviendrons.
Bonjour, je tenais à rendre hommage aux accusés d'Outreau pour leur courage et le fait qu'ils aient demandé de témoigner en public. Ainsi, je me sens lavée parce que moi aussi, j'ai subi énormément d'injustices. Et je voulais simplement dire que les erreurs judiciaires qu'ils ont subies ne sont pas du tout une exception et qu'à mon avis, c'est quelque chose de très généralisé. Et il serait souhaitable que cette commission d'enquête ne fasse pas une exception judiciaire avec l'affaire d'Outreau, mais essaye de vraiment, vraiment regarder toutes les dissonances judiciaires qu'il y a dans notre pays et toutes les victimes qu'elle crée et qu'elle génère en permanence. Merci, merci à ces personnes qui ont tant souffert et je vous trouve vraiment formidable.
Ouais, bonjour Daniel. Écoute, il est 16h, là, je viens d'écouter les informations et j'entends que la Constitution européenne, ils veulent quand même l'appliquer en 2009. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, mais c'est dingue, hein. Alors, je suis effaré. Enfin, bref.
Oui, bonjour, c'est Ruffino de Strasbourg. Je viens d'écouter l'émission avec Cornelius Castroviejalis. Je suis épaté par ce que j'ai entendu. Épaté parce que c'est ce qui a été dit il y a 10 ans maintenant n'a pas pris une ride. C'est un constat d'une justesse absolue et qui est encore complètement d'actualité. J'ai beaucoup aimé la proposition de Castoriadis, considérer la terre comme un jardin. Un jardin qui nous revient à nous, les hommes, de soigner, de chérir, non pas en lui imposant notre marque, mais en sachant épouser les siennes. Merci et à toute l'équipe et à bientôt peut-être. Au revoir.
Je voudrais dire que je suis extrêmement contente d'avoir entendu la voix de Cornelius Castoriadis et d'avoir entendu développer si chaleureusement, si vivement, si intelligemment, la profondeur de ses idées. Je voudrais vous demander si ce serait possible que vous nous lisiez régulièrement un passage de ce livre que vous avez cité, ou alors un passage de Socialisme ou Barbarie. Je vous remercierai d'avance.
Je vous appelle parce que je viens d'écouter avec un plaisir immense l'émission consacrée à Cornelius Castoriadis, que j'avais découvert grâce à l'émission « Là-bas, si j'y suis » lors de la précédente diffusion. Et j'avoue que je m'en suis toujours pas remis, c'est toujours aussi fort. Donc j'ai lu et relu « Les carrefours du labyrinthe » et autres. Et une idée vraiment intéressante, c'est cette idée de la liberté comme action qui s'autolimite. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, je souffre d'une grande schizophrénie, puisque moi, dans mon boulot, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que je suis ingénieur commercial Et mon job, c'est justement de faire en sorte que ça jute. C'est-à-dire que des entreprises achètent des services et des produits dont elles n'ont pas vraiment besoin. Donc, ma liberté, c'est quoi? C'est lire Castoriadis le soir au coin du feu, ce qui est sympa. Et puis aussi, de temps en temps, claquer le bec de quelques impudents qui pensent que être un homme, c'est rouler en Mercedes et avoir des télévisions dans toutes les pièces. Voilà, je vous embrasse fraternellement. Continuez. Salut.
J'étais ravi de réentendre que j'avais entendu déjà il y a 10 ans, monsieur Castoriadis. Et alors, quel visionnaire, hein. Quel visionnaire. Et déjà, à l'époque, il y a 10 ans, on souffrait déjà énormément. Mais alors là, enfin, il voyait très loin. Mais ça m'a réconforté parce que le matin, j'avais entendu madame Parisot interviewée par vos collègues journalistes de France Inter qui lui léchaient les pompes à tout va, alors qu'on venait de fermer deux usines encore chez Seb en France. Et enfin bon, peu importe quoi. On voit que on est. Alors il avait parfaitement raison quoi. Le monde politique avec. On le voit très bien avec le vote contre la Constitution. On le voit très bien avec les journalistes qui sont complètement fourvoyés parce qu'il n'y a pas que les hommes politiques. Ils sont jamais invités ceux qui seraient contre. Et surtout, notamment les jeunes, on n'invite que les vieux dinosaures, les vieux éléphants, et ainsi de suite. Et malgré tout, il y a une lâcheté, extraordinaire, quoi. Il parlait des années 30, mais dans les années 30, c'est vrai que nos grands-parents et nos parents avaient un courage monstrueux, et même les hommes politiques comme Léon Blum, qui se sont fait casser plusieurs fois la figure, pourtant c'était pas des acharnés de la bagarre. Ils avaient le courage politique de dire non, et Léo Lagrange et tout ça, enfin, on leur doit beaucoup. Enfin, j'espère qu'il y aura beaucoup d'émissions comme ça, parce qu'on en manque en ce moment, et peut-être que ça va redonner conscience à quelques nouveaux hommes politiques qui seraient capables d'avoir un peu de courage politique, en gagner leur argent et le mériter. Salut Daniel, c'était Jean-Paul de l'Essonne.
Voilà, j'écoute régulièrement l'émission de Daniel, que j'apprécie, parce que j'aime bien qu'on défende les petits par rapport aux gros, et là, ce coup-ci, c'est moi qui me sens petite par rapport aux gros. Voilà, j'avais trouvé une maison de retraite pour mon père depuis des années, les choix étaient difficiles, on n'arrivait jamais à trouver, et là, on a trouvé une petite maison familiale, nickel, où il se sent comme chez lui. Eh ben, cette maison, elle va fermer, parce qu'elle ne respecte pas les règles imposées par la DAS, parce qu'il faut être comme tout le monde, rentrer dans les règles. Et si on n'est pas tout à fait dans les règles, même si les gens sont bien, eh ben, il faut s'organiser autrement. Alors, de nouveau, il va falloir changer alors qu'il s'était adapté. De nouveau, il va falloir trouver autre chose. Et donc, si un jour, on pouvait parler de ce problème des vieux, de nos parents, qu'on est obligé de mettre à droite ou à gauche, et du problème de ces maisons de retraite, ça serait, je pense, une émission intéressante. Pour ceux qui s'occupent de leurs parents. Voilà, à bientôt.
Eh oui, c'est une question intéressante et ce message nous touche beaucoup. Effectivement, on va s'intéresser à toutes ces histoires de ces règlements qui gèrent les maisons de retraite et les maisons de repos où, comme dit avec sensibilité cette auditrice, on met nos parents à droite, à gauche, etc. Il y a beaucoup de choses à dire sur la façon dont sont gérés, organisés ces lieux, la façon dont ils sont coupés du reste de la société. Il y a un véritable petit ghetto, un véritable apartheid générationnel qui fait que les gens âgés se retrouvent enfermés dans des lieux, aussi bien à cause de ces règles, ces règlements, mais aussi à cause de ce rejet. Il y a une exclusion très très préoccupante, je pense, là-dessus, et on consacrera sans doute dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent des émissions là-dessus. D'ailleurs, si vous avez des points de vue, si vous vous intéressez à ces problèmes, à ces questions, si vous êtes impliqué, vous pouvez tout à fait vous manifester sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Vous avez été très nombreux, on a été ravis de vos réactions suite à l'émission d'hier avec cet entretien que nous avions eu en 1996, il y a 10 ans, avec Cornelius Castoriadis. J'hésite, j'allais dire le quoi. Le philosophe, l'économiste, le psychanalyste, le penseur, comme on voudra, Cornelius Castoriadis. Et c'est vrai que cette émission est toujours aussi enfin cet entretien qui nous avait accordé toujours aussi beau. Vous avez été nombreux à nous demander bibliographie, que faut-il lire de Cornelius Castoriadis. Eh ben, je crois que il y a beaucoup de choses sur, si vous allez vous balader un peu sur Internet, vous voyez beaucoup de choses sur lui, des articles, des études, etc. Bien sûr que son chef-d'œuvre, enfin, sa grande œuvre, c'est son livre publié en 1975, L'institution imaginaire de la société, mais il y a aussi toute la série sous le titre Les carrefours du labyrinthe, où il y a, je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes, Les carrefours du labyrinthe, qui sont des textes de ses interventions, des textes longs ou courts dans les différents domaines qui l'intéressaient. C'est beaucoup de domaines qui vont de la politique à la poésie, en passant par la psychanalyse et l'économie. Mais vous pouvez, même si vous n'êtes pas un spécialiste de la psychanalyse ou de la politique ou de la poésie ou tout chaque domaine dans lequel il semblait lui-même un spécialiste, et notamment sur le pays de ses ancêtres, comme il disait, c'est-à-dire sur la Grèce antique et sur les philosophes grecs, vous pouvez vous balader dans ses bouquins et picorer dans les différentes interventions. Vous trouverez du grain à moudre, et en tout cas de la jubilation, et de quoi stimuler nos réflexions, comme vous en manifestez. Vous avez manifesté le plaisir à la suite de l'émission d'hier. Aujourd'hui, on va se balader à Venise. Oui, voilà, comme ça, on dit, tiens, c'est vendredi, tiens, si on allait à Venise. Et vous allez voir que si vous n'êtes pas à Venise ce week-end, vous n'allez pas nécessairement regretter de ne pas y être. En tout cas, Venise, c'est magnifique. Juste après les messages que voici, au 01 56 40 37 37.
Allô, bonjour, Marie de Paris. Une petite histoire. 6 contrôleurs qui montent dans un bus, 2 jeunes qui n'ont pas de billet. Les contrôleurs appellent la police monte, un des jeunes s'échappe au risque de sa vie, puisque le policier court derrière lui, dégaine son arme. L'autre est couché au sol, menotté, malmené, à un tel point que une femme se met à pleurer. Une petite fille de 11 ans aussi, sa grand-mère de 79 ans, essaie de s'interpeller et est rabrouée par les contrôleurs eux-mêmes. Vous me dites San Paolo, Chicago, Washington, une banlieue? Non, Paris, 4h30 de l'après-midi, entre le boulevard Saint-Germain et la rue Monge. Voilà où on en est dans ce pays. Au revoir.
Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter tous mes vœux pour l'année 2006. Cette année, le président de la République et le premier ministre l'ont dit, sera l'année de l'égalité des chances. Or, la première égalité des chances, la première mission, le premier devoir de l'école, c'est d'apprendre à lire et à écrire à tous les petits français. Et voilà ce que le ministre de l'Éducation nationale nous met comme préambule d'une tirade, d'une lettre concernant les apprentissages de la lecture. Monsieur le ministre, a-t-il oublié que le droit au sol n'existe plus depuis longtemps, que la loi sur l'immigration impose une présence en France avec arrivée avant l'âge de 10 ans et 15 ans consécutifs sur le territoire pour prétendre à la nationalité française. A-t-il oublié que dans de nombreuses écoles, donc, si on s'en tient à ses propos, on apprendra à lire à une extrême minorité, et devra-t-on faire un cours pour les Français, un cours pour les non-Français? Monsieur le ministre, a-t-il oublié que la France a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant, reconnaissant à tous le droit à l'enseignement, quelle que soit sa nationalité? Est-on manifestement gouverné par des ministres xénophobes? Peut-on l'attaquer pour propos discriminatoires? Compte tenu de la gravité de ces propos, il me semble primordial de les dénoncer, car depuis Vichy, aucun ministre n'avait osé écrire de cette façon. Et je suppose qu'avant d'être publié, tous les textes sont corrigés, lus et relus pour ne pas commettre d'erreurs. Ne pouvant m'exprimer librement, devoir de réserve oblige, je compte sur votre émission pour diffuser cette information et voir de quelle façon M. de Robien pourrait être inquiété par ces propos parfaitement discriminatoires.
Bonjour, Guylaine de Poitiers. Il y a 2 ou 3 jours, Villepin nous a annoncé que ni la RTT ni l'avance de l'âge à la retraite n'avait réduit le chômage. Il a oublié de nous dire que ça fait 30 ans qu'on allège les charges des entreprises et que ça ne crée pas d'emplois, tout au contraire. Alors après, je te culpabilise, les chômeurs et les Français sont des feignants et les RMistes, le RMA, tout ça, voilà. Ce garçon a une mémoire très sélective, voilà.
Salut Daniel, Frédéric de Toulouse. Je t'appelle pour informer les auditeurs de là-bas, si j'y suis, que ce soir à 20h30, nous organisons un forum débat pour rompre avec les politiques libérales et construire une alternative. Ce forum est organisé dans le cadre du comité du 29 mai du Volvestre, en Haute-Garonne, et les thèmes traités sont l'emploi, le partage des richesses, les droits sociaux et les services publics, la démocratie et l'écologie. Voilà, l'alternative politique se construit en Haute-Garonne. Nous sommes une quinzaine de collectifs, à ma connaissance, sur ce département. Et les 4 et 5 février à Toulouse, il est prévu un forum départemental pour construire et adopter en avril une charte antilibérale sur le plan national. Je donnerai donc rendez-vous ce soir à 20h30 à tous les citoyens, à la mairie de Longage, à une trentaine de kilomètres au sud de Toulouse, pour venir débattre avec nous. Voilà, à bientôt.
Oui, bonjour, c'est Florence de Strasbourg. Alors c'est pour rappeler que le prochain repère des amis de la base CGC de Strasbourg se tiendra donc samedi 21 janvier à La Hache. C'est un bar qui est rue de l'ancienne douane à Strasbourg, donc à 15h. Voilà, 21 janvier, samedi, 15h à La Hache. Venez nombreux, au revoir.
Monsieur Daniel, puis Anthony Kahn. Je ne sais pas si tu l'as annoncé dans les dernières émissions sur Mayotte, parce que j'ai pas vraiment écouté jusqu'à la fin. Ce soir, il y a une émission, Thalassa, il y a un sujet sur Mayotte et les Comores, il y a souvent, soit en jouant, je ne sais plus quoi, concernant spécialement le problème des clandestins et tout ce dont l'émission parlait. Voilà, ce soir sur Thalassa, je ne sais pas si tu en as parlé chez toi. Bon, allez, salut.
Salut, ceci est un message pour tous les Parisiens et tous les banlieusards et tout le monde. Le prochain repère parisien de là-bas si j'y suis aura lieu samedi demain au 6 rue Sorbier à 16h dans le 20e arrondissement. Venez nombreux, on vous attend.
Magnifique. C'est vraiment magnifique.
Alors maintenant, nous allons vers le quai pour voir les îles, pour des soupirs, et après nous irons faire une petite promenade par les ruelles.
C'est vraiment magnifique.
C'est magnifique. Magnifique.
C'est une ville d'amour triste, Venise. C'est une ville de pluie et de brume, Venise. C'est pas une ville de soleil. Là, vous la voyez sous le soleil, mais la vraie Venise, c'est la brume, c'est le brouillard, c'est la pluie, c'est l'hiver, c'est les canaux sombres. Et c'est une ville d'amour triste, Venise. C'est pas une ville d'amour très gai.
Magnifique. C'est vraiment magnifique.
Et naturellement, tout le monde regarde la beauté de la mosaïque. Elle est splendide, mais attention, car elle a été très importante de mon point de vue didactique. Car vous savez qu'à l'époque, ils ne savaient pas lire. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient la mosaïque.
C'est vraiment magnifique.
Quelqu'un il a dit que je l'ai dit un peu avec un sourire, qu'à partir du moment que les gens ne me croient plus en Dieu, ils croient à toutes les autres choses.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, la tentation de Venise.
Flight number 2, arriving from New York.
Qu'est-ce que la femme? Et d'où lui vient ce pouvoir magique qui fait qu'elle trouble la tête et blesse les cœurs du moine, du sage, du sénateur, des membres du nouveau et du vieux conseil de la quarantaine. Quelle est cette force qui soumet à l'empire de l'amour les sultans, les princes, les rois, les empereurs, les cardinaux et les papes lui-même? Qu'est-ce qui produit cette émotion, cette attraction, et qui font rester quoi? Les savants, les docteurs et toute la Sorbonne. Ventre bleu. Qu'est-ce donc la femme? Et d'où lui vient ce pouvoir magnétique? Baf va vous le dire. Elle a un con.
C'est magnifique. Magnifique. C'est vraiment magnifique.
Ses dômes, ses pointes, ses seins, ses doigts,
c'est vraiment magnifique.
Ses ongles de Venise. Tout n'était que caresse pour le ciel brûlant et pour l'eau caressante.
C'est vraiment magnifique.
Les flots éblouis de la poupe la baisent et la suivent battant des cils. Sur le grand canal, il pleut des violettes. La nuit vient avec ses cœurs de pavots et ses mauves. Les hautes cheminées s'évasent en calice. Le charme de Venise contente tout caprice.
C'est vraiment magnifique.
Eh ben, je suis déçu, mais j'ai été déçu.
C'est vraiment magnifique.
Venise, la cerise sur le gâteau, sauf que la cerise est en plastique et le gâteau vient de chez McDo. Degré zéro du poncif pour académicien, on a l'impression d'être chez le dentiste dans la salle d'attente et de feuilleter un vieux numéro du Figaro magazine. Pâtissière ou putassière, Venise est un parc d'attractions culturelles pour une Europe en quête d'émotions standardisées. On va à Venise pour se débarrasser de Venise comme la communion du petit. Une corvée machinale, un devoir conjugal qu'on ferait vite en faisant attention à pas trop faire grincer le sommier. On a envie de blasphémer et d'être iconoclaste à Venise. Certains partagent ce penchant. Ici, le touriste déteste le touriste. Les autres sont des moutons. L'esthète éthéré et dédaigneux, le m'as-tu vu en Venise, qui voudrait mourir à Venise, avec en poche sa carte gold, déteste le plouc club du troisième âge de Château-Thierry, ou les potaches gais et boutonneux en kawé fluo. À Venise, il y a des églises, mais plus de religion, plus de sacré, plus d'âme. C'est trop fait exprès, c'est trop représenté, c'est trop prédigéré. C'est le supermarché du pré-mâché. On connaît déjà, plus de surprises, sauf si l'on est intoxiqué à la collection Harlequin ou à trop de Thomas Mann, ou à trop de Paul Morand. Un décor de théâtre où il n'y aurait plus d'acteurs resterait des décors en loque. On parle de la nuit, on parle de l'hiver à Venise, on y retournera peut-être. Mais je pressens, je présume qu'il n'y aura pas plus de vie qu'aujourd'hui, pas plus de populo. Comme il y a la purification ethnique, il y a la purification esthétique. Régis Debray, dans un livre court et érudit et assez magistral, contre Venise, évoque Saint Jean de la Croix, qui disait ceci: « Pour toute la beauté, jamais je ne me perdrai, mais pour un je ne sais quoi qui s'atteint par aventure. » C'est beau, c'est de Saint Jean de la Croix. C'est avec ces phrases-là qu'on va se balader à Venise, parce que nous avons une porte de sortie, nous avons une solution, nous avons un itinéraire et nous avons une beauté, une subversion, une agitation, une rébellion à partager. Celle d'un poète vénitien du XVIIIe siècle qui s'appelle Baffo. Et nous allons nous balader aujourd'hui sur le pas de ce très érudit, très philosophe, très poète et très obscène, Baffo. Des pas dans Venise, sur France Inter, la passe jésuite.
Yeah. qui visse Giorgio Baffo, poeta dell'amore che ha cantato con la massima libertà e con grandiosità di linguaggio. Apollinaire.
Guillaume Apollinaire, 1910. Voilà. Ça, c'est une plaque qui nous dit que Giorgio Baffo a vécu ici.
Les derniers 20 ans de sa vie.
Voilà. Trois lignes d'Apollinaire, écrites en 1910.
Donc, poète de l'amour qui a chanté avec la plus grande liberté et la plus grande grandeur dans le langage. Voilà comment on peut retraduire la phrase d'Apollinaire.
Voilà, nous voilà à Venise, vous avez vu, avec le compère Lorenzo Giaparizzi, qui est un amoureux de Baffo et de l'amour tel que Baffo l'envisage au temps du libertinage, qui ne sévissait pas tant à cette époque-là à Venise qu'en France, de ce côté-ci des Alpes. On va se balader, déguster non seulement cette revigorante obscénité qui est dans les vers de Baffo, mais aussi à travers son esprit, sa philosophie, sa façon d'envisager les choses, la vie, le vie également.
Le matin, il se réveillait, il sortait de cette maison et il allait sur une place à côté où il y avait un café et les amis l'attendaient. Oui. Et commençait à réciter ses poèmes et tout le monde prenait des notes ou bien lui-même donnait des copies de ses poèmes.
C'est ça. C'est-à-dire, qui c'était ce Giorgio Baffo?
C'était un patricien, noble.
Noble, fonctionnaire.
Fonctionnaire, était... oui, juge.
Juge, donc il avait un rôle important.
Un rôle très important.
Dans l'État.
L'État était surtout laïque et, et philosophe. C'est un vrai poète. Son activité principale, l'autre était pour survivre, disons. Il raconte tous les désirs et tout ce que l'homme a... On peut penser autour de la sexualité, de l'érotisme, du désir, de l'amour, des fantasmes, tout ce qui est le monde érotique de l'homme de l'Occident, qui est valable aujourd'hui encore. Ouais. Il y a eu un silence sur lui jusqu'à, on peut dire, jusqu'à 1970.
Où, 1970.
À peu près, où ils ont publié sa œuvre complète.
Ici, d'abord.
En Italie, hein. Italie.
Et c'est Apollinaire qui le premier le signale.
Alors, en France, 1910. Voilà.
Et jusque-là, il était
interdit. Inconnu. Interdit.
Ah pas, oui, oui, pas inconnu, mais interdit.
Interdit, oui, oui. Grande partie de la société noble vénitienne, une partie au moins, était avec lui, partageait le même humour, même idée, le même esprit.
J'ai dédié ces vers de ma composition aux hommes et aux femmes, aimant à rire et sachant regarder les choses du bon côté. Je les mis sur leur protection, afin qu'ils emploient leur esprit et leur raison à les défendre contre les gens trop scrupuleux. Qu'ils leur disent qu'on n'y trouve ni critique ni offense contre les personnes. Qu'il n'y a question ni des dieux ni des rois. Qu'il n'y ait parlé que des choses gaies, belles, délicieuses, c'est-à-dire des bouches, des tétons, des culs, des vies et des coups.
Il écrivait des poèmes comme il pensait. Il pensait et écrivait des poèmes aussitôt. Oui, il pensait à un poème, à une poésie, pratiquement.
Donc voilà, il écrit son poème, il le met dans sa poche et il va par là. On peut refaire les mêmes pas. Hein.
Oui.
Voilà, là il y a des touristes qui ont acheté des imperméables parce qu'il pleut un peu. Petit pont au-dessus d'un canal. Voilà, les gondoles sont rangées. Ça sent un peu la vase hein, quand même. Hein.
Oui.
Il y a une odeur très particulière à Venise. Hein. Ah, un peu le cloaque,
c'est
le cloaque. On est sur le pas de Baffo.
Il gagnissait dans la faute aux touristes de cette odeur.
Oui, bien sûr. Voilà, là on débouche sur une place superbe, hein. Campo San Stefano.
Si.
Voilà.
Il y a une très belle lumière là maintenant, hein.
Vers l'église.
Oui. Alors où il va là? Il va dans un de ses cafés.
Oui, je crois que le café soit celui-là, qui autrefois s'appelait Grizzoni. Dès qu'il arrivait dans ce café, il y avait plein d'amis qui l'attendaient et commençaient à réciter ce poème. Aussitôt, il y avait tout un groupe d'intellectuels qui suivaient les libertins français, lui aussi.
Jerzy Baffo est né le 11 août 1694. Il eut une vie assez longue pour l'époque, puisqu'il est mort en 1768, bon, 72 ans. Et alors, ce qui est évidemment intéressant, c'est qu'il était membre de la Cour suprême de justice. En fait, c'était un noble de très bonnes mœurs et qui était aussi, et était-ce aussi contradictoire que ça à l'époque, un amateur de bordels, de tripots, de casinos, comme on disait à l'époque, de café, de chocolat, et oui, mais il appartenait au Grand Conseil, il fut comptable de la République, il avait rang et réputation dans cette Venise qui alors entame son déclin. Venise est une ville qui est toujours en déclin et toujours en renaissance, et dans ce déclin, dans cette crise à la fois philosophique, à la fois religieuse que traverse Venise, eh bien, il est un peu l'ambassadeur de l'esprit de nos lumières à nous, de notre France à nous, qui connaît alors cette effervescence des esprits, un appétit de science, d'aventure, de nouvelles idées, de nouvelles raisons, de nouvelles connaissances. Et qui aboutiront, alors comme on le sait, à ces trois mots qui sont sur les frontons de notre République, cette utopie qu'est notre République, liberté, égalité, fraternité. Mais on se croise à cette époque-là, et peut-être que ce Baffo est à ce croisement. Est-ce faire trop grand cas de ce poète? Peut-être ou peut-être pas.
Il n'était pas dangereux parce que ses poèmes n'étaient pas publiés encore. On ne les publiait pas, il ne voulait pas les publier pour éviter des procès, que les ennemis prennent le pouvoir sur lui.
Donc il se contentait de les dire, recopier sur des papiers, de les laisser recopier sur des papiers à la main, mais pas de publication.
Pas de publication, oui. Et tous les culteurs des Baffo, ils écrivaient eux-mêmes.
Ils recopiaient,
ou bien ils apprenaient
Ils mémorisaient.
Ils mémorisaient aussitôt, et ils transcrivaient aussitôt.
Et transcrivaient, et ça faisait le tour de la ville.
Le tour de la ville, ça faisait des cadeaux qui se donnaient l'un l'autre. Et il y avait des culteurs qu'ils achetaient, qui les ramassaient,
qui les reliaient, qui les rattachaient. Oui. Ah, oui. C'était tout un culte, alors.
Oui, un véritable culte. Ça, il s'appelle Poésie à Barone, hein, cette poésie, et récitée dans les cafés, dans les rues, dans les bordels, dans les hôtels, dans les théâtres, où il y avait du public, de la société, et ça servait pour amuser les amis et soi-même.
Chaque fois que vous voulez les ménager et que vous les mettez sous clé, j'ai peur que vous ne commettiez un gros péché qui vous exposerait à voir les culs brûlés. Sachez donc que, ainsi que l'oiseau, grand ou petit, est fait pour voler, les poissons pour nager, la glace pour rafraîchir, les bois pour brûler, de même les cons est fait pour recevoir les vies.
On avait le sens simplement de l'obscénité, du caractère érotique, du caractère subversif de sa poésie. Comment on la recevait? Comment on la percevait?
Oui, il y avait tout. Il y avait le côté érotique très fort et subversif, parce que l'érotisme niait ni la religion et cette construction de l'esprit. Ouais. C'est une société qui
qui sortaient sur la rue, sur les cafés, dans les théâtres, qui s'exposaient beaucoup, qui s'amusaient surtout.
Et Venise est encore dans sa splendeur, la 18e.
Oui, c'est la grande splendeur de Venise encore. Il n'y avait pas encore décadence. Après, on verra après, quand on s'approche de la place Saint-Marco, qu'il y a une série de petites ruelles, des calles, où il y avait tous les casini, qui c'était des petites maisons que les nobles louaient, et dans lesquelles ils amenaient leurs maîtresses, jouaient aux cartes, buvaient de l'alcool, du vin surtout, et ils s'amusaient.
Cher téton, vous êtes la partie du corps qui rassemble le mieux au cul. Vous êtes des délicieuses vallées vers lesquelles les vies s'envolent dès qu'ils peuvent. Vous présentez une vue qui charme tout autant que celle de la Voie lactée. Et bienheureux est celui qui peut vous toucher, car il se fond de plaisir comme la cire au feu. Ô cher et beau ornement de la femme, vous êtes si attrayant qu'il est con ne peut pas l'être plus. Votre belle apparence est d'un bon augure pour les appâts placés plus bas, car ordinairement, celle qui a des beaux tétons a un beau cul.
La ville était libertine ou pas? Parce qu'on s'imagine, on voudrait que... Mais la vérité,
oui,
elle est
oui,
quoi?
Oui, la grande partie de la classe dominante était libertine. Oui. Il y avait tous les nobles d'Europe qui descendaient à jouir de la ville, de tout ce que la ville offrait, donc des femmes merveilleuses, de la mer, des restaurants, des cafés surtout. On va voir qu'il y en avait 250... que sur la place Saint-Marc, oui. Ouais.
C'était le bordel pour les nobles de l'Europe.
Oui, un petit peu, oui. Mais bordel de luxe avec la musique. Il y avait, dans tous les quartiers, il y avait au moins deux théâtres lyriques dans lesquels on jouait de l'opéra. Et donc, tout le monde s'amusait à aller à l'opéra. J'aimerais bien vous raconter l'histoire du Handel qui arrive à Venise.
Handel,
qui vient à Venise du Grand Nord. Habitué à la sacralité de la musique, il entre dans un théâtre d'opéra vénitien et il se passe une chose très... C'est lui qui dit dans ses mémoires qu'à un certain moment, pendant la représentation, il y a une petite chaussure de femme qui tombe du haut. Tout le monde regarde en haut et commence à applaudir. Et c'était une fille qui était à jambes grandes ouvertes, qui avec son mec qui jouissait, et tout le monde applaudit, et tout le monde l'opéra continue quand même. C'était, il se rendait pas compte qu'est-ce que c'était la vie à Venise où il y avait la musique, surtout parce qu'on allait au théâtre même avec leur maîtresse, ou même avec des femmes de la rue, comme ça. Et on amenait aussi de la bouffe et
du vin,
oui, on s'amusait, c'était complet le théâtre, il y avait tout le sexe, le vin, la bouffe et la musique.
Et la musique. Oui. Il n'y avait pas l'austérité
sacrée
de l'opéra aujourd'hui.
Oui, c'était pas une messe, c'était le contraire de la mise en scène du messe, c'était vraiment. Surtout que Venise était la capitale de la musique lyrique européenne. Tous les plus grands musiciens étaient là. Toute la culture musicale plus importante d'Europe venait de Venise. Surtout lyrique. Hein.
Questi armonici versi.
Mi è piaciuto molto Camilla Coloni che l'acqua che tra sua fontana dà vita ai morti e spirito ai cogioni.
Brava.
È brava, no, perché ho sbagliato un po'.
Voilà, un baffo lu par une jeune fille. Vous êtes de Venise?
Oui.
Et vous comprenez ce que vous lisez?
Bien sûr.
Et ça vous choque pas?
Non.
Ouais.
C'est normal.
Oui.
Oui.
Mais qu'est-ce que vous lisez? Qu'est-ce que ça raconte?
Raconte la. Je sais pas comment dire en français, c'est la.
Eau de con, c'est ça.
Eau de. Oui. Eau de con.
Eau de con. Ouais. Et vous connaissez Bafo?
Oui. C'est très connu ici à Venise. C'est un peu choquant, hein, pour moi. Mais c'est véritable aussi. C'est pas quelque chose de trop fantasieux pour moi.
Aujourd'hui, l'amour à Venise, aujourd'hui.
Triste.
Ah bon?
Triste.
Pourquoi triste?
Parce que il y a beaucoup de touristes, il faut marcher beaucoup pour voir tous les monuments, les choses. Il n'y a pas beaucoup de temps pour faire l'amour.
Il n'y a pas société.
Pas société, oui.
Il n'y a pas assez de temps pour faire l'amour ici.
Il faut travailler. Il y a les touristes français, les Américains. Il faut travailler. Moi, je travaille 10 heures par jour. Et...
Vous travaillez pour les touristes?
Oui.
Qu'est-ce que vous faites?
J'ai un magasin de souvenirs.
Ah oui, le touriste, c'est l'usine.
Oui.
C'est ça.
Oui. Hein? J'attends les touristes et après, tac, je les prends et je dois vendre quelque chose.
Où est-ce que vous allez faire du tourisme, vous?
Je vais parfois en Allemagne parce que mon fiancé est allemand.
Pourquoi cette ville est devenue si pudibonde? On va pas dire puritaine, mais pudibonde. Alors que c'était une ville de licence.
Oui, oui. J'ai pas l'idée.
On sait pas.
Franchement,
hein?
Oui, ah, j'ai pas l'idée.
Parce qu'il a perdu la société. Il n'y a plus de société à Venise. Il n'y a que des marchands, surtout.
Oui.
Le peuple n'est plus là. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de vie.
C'est un décor, quoi.
Oui.
C'est un théâtre.
Ouais. Pour touristes.
Un théâtre pour touristes.
Les Vénitiens qui habitent ici maintenant sont peu.
Ça fait très noble acheter des appartements à Venise.
Ouais.
Hein, dans toutes les villes, ouais, d'Italie, dès qu'ils ont de l'argent, ils achètent un appartement à Venise.
Ouais, ouais. Est-ce que vous voulez partir ailleurs? Vous avez envie de vous installer ailleurs, vous aussi?
Oui. C'est difficile. Oui, je crois que j'irai en Allemagne avec mon fiancé, mais pour
où
moi,
ça,
c'est
ça
à Francfort, je l'espère, ou à Monaco.
Monaco?
Oui.
Mais vous allez quitter Munich?
Mm-hmm.
Vous allez quitter Venise pour Francfort?
Oui.
Les gondoles pour la saucisse.
Un seau qui déforme tout ce que la nature fait de bien. Lorsqu'elle fait une chose simple et pure, il s'empresse de la gâter. Il ne permet pas aux bêtes de dormir. Il châtre inutile celles qui lui sont soumises et veut à toute force uniformiser le climat. Il ne veut à aucun prix rien de ce qui est naturel. Et c'est fait, par cela même, un tort considérable. Voyez à quel point il aime l'absurdité. Il s'est avisé, à son grand dame, de prétendre que c'est un péché de caresser les cons.
Il y a toujours une lutte du bas contre le haut, du bas, du terrain contre les fantaisies spirituelles, contre la maladie de la tête, la maladie de l'esprit, où tu viens inventer des mondes qui n'existent pas, des condamnations.
Il nous ramène à la condition humaine,
oui.
Et cette condition humaine n'est pas pour lui terre à terre. Elle représente une issue.
Oui, c'est la fin de notre vie, c'est une fin. Et on dirait qu'il avait découvert le trauma primordial, le trauma de la naissance. Il y a des poèmes où il dit « Pourquoi m'avez-vous enlevé du camp de ma mère ? J'étais si bien, etc. etc. »
Voilà.
Il anticipait que qu'être heureux est bien être dans le camp.
Alors, il raconte en même temps, l'air de rien, il y a des poèmes sur Venise, sur la vie à Venise, mais même à travers ces poèmes érotiques, il parle, en fait, de la vie de la...
De la vie de Venise, oui, de la vie de Venise, des saisons de Venise, de la vie nocturne, de l'amour à Venise, de tout ce qui se passe, de la maladie. De la tristesse aussi de la fin du carnaval, par exemple. Des lois qui torturent, les lois moralistes qui torturent les Vénitiens, les citoyens. Des lois politiques contre le pape, contre l'église, contre...
C'est ça aussi. Il y a quand même un goût de la provocation, du sacrilège, du blasphème. Contre la toute-puissance de l'Église, c'était pas rien ici quand même.
Oui, contre la toute-puissance de l'Église et contre les puissantes aussi, contre
la puissance tout court, contre les puissants.
Ils ne pensent qu'à ça, au pouvoir, donc ils n'ont pas le temps de vivre, le temps de jouir, le temps de... Et surtout, ils sont jaloux des autres, et donc ils essaient de les écraser avec des lois contre le libertin, contre la liberté, la vérité en plus.
Et ça, c'est pour ça... Entre autres, que ces poèmes étaient appréciés, c'est qu'il y avait ça dans ces poèmes. Il y avait le côté érotique, provocant, mais il y avait tout ça derrière.
Oui, philosophique, moral, politique et existentiel aussi. Et
existentiel parce qu'aujourd'hui, ça nous touche toujours. Parce que, en fait, là, on est au cœur de Venise, enfin, on est à Place Saint-Marc à Venise. Et en fait, il n'est pas très connu toujours ici. Il est toujours un peu à l'index.
Non, oui, il est toujours à l'index. C'est toujours un tabou.
Ça fait plaisir. C'est vrai, parce qu'il a gardé sa force, quoi.
Oui, il a gardé sa force comme une braise, toujours là, vivante.
Oui.
C'est pas un feu, mais c'est une braise toujours vivante depuis 3 siècles, désormais.
Il est présent dans ta vie, c'est quelqu'un qui est présent dans ton esprit, dans ta vie.
Oui, oui, il est assez présent dans ma vie. Je me retrouve en lui.
Oui.
Même, c'est un point d'arrivée pour moi, David Combaf.
Un but,
oui, c'est un parcours à faire.
Tu commences ? C'est celui-là.
Qu'est-ce qu'on va voir ?
Au trou du cul qui forme un rempart ferme de collines, tu es un vase plein de muscles, précieusement gardé par ces deux masses de chair.
J'ai comme un melon fendu, attendez parce que je vois rien de là, en deux, et l'architecte le plus célèbre ne pourrait former un plus beau groupe, car l'art ne peut pas l'emporter sur la nature.
Oh cher cul, étonnant chef-d'œuvre, quelle charmante,
avant, là.
Quelle charmante beauté tu déploies quand on soulève le voile qui te couvre.
On aperçoit des montagnes, des vallées et un bouquet au milieu. J'éprouve les braves gens qui choisissent cet endroit pour leur demeure.
Hélas, le pont de l'été, il a été refait dans les années 50. C'est celui-ci, voyez.
Ah, c'est ce petit pont-là.
C'est ce petit pont-là.
Qui fait tellement rêver parce que c'est le pont des tétés, c'est-à-dire le pont des saints.
Le pont des saints parce que...
Les saints des femmes, les tétés.
Mais vous savez pourquoi? Parce que la République de Venise, voyant tant de sodomites qui violaient même les jeunes hommes, autorisa les prostituées de se mettre au dehors au balcon avec le nichon pour inviter les hommes à rentrer dans les bonnes mœurs.
Dans le droit chemin.
Oui, voilà, comme ça. Ils se mettaient là comme ça.
À ces fenêtres-là.
Voilà.
Ah.
C'était éducatif. Regarde qui sont les fondamentalistes catholiques, ils ont saboté Ponte delle Tette et ils ont marqué Tetti.
Et Tetti, ça veut dire quoi?
Les toits.
Ah, ils ont transformé Tetti en Tetti.
Voilà.
Et c'est comme ça qu'on écrit l'histoire, et c'est comme ça qu'on la rêve dans Venise, le Ponte des Têtes, alors où les dames, les beautés, plus ou moins peut-être, mais bon, on est là pour rêver, on a même payé pour ça, exposaient leurs appâts afin, dit la légende et l'histoire, de remettre les sodomites dans le droit chemin. Alors on sait aussi quand même qu'il y avait d'autres inconduites dans cette sérénissime république. En 1750, un édit du patriarche condamnait les prêtres vénitiens trop portés à fréquenter les prêtres, fréquenter les rues, les tripots et les femmes. Et évidemment que Bafo n'a pas manqué de d'écrire sur ces prêtres paillards, voleurs, baiseurs et bagarreurs qui sévissaient. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est ces dames au balcon, comme on dit, hein, au balcon. T'as un beau balcon, il était un beau balcon. Et ben c'était le cas, c'était vraiment ça. Et alors il y a un petit trattoria à côté. Là, il fait beau. On a envie d'entrer là pour voir si on a entendu parler de cette histoire qui nous intéresse.
On va rentrer dans la trattoria. Oh, c'est une très belle trattoria. Bonjour. 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 C'était comment le Ponte del Tete?
Il Ponte del Tete. Perché nel 1500, essendo la legge dice, essendo già Venezia, il vizio greco.
E a causa di vis grec, voilà. Donc il y avait.
Je suis obligé à rimanere con i polmoni fuori.
Le monsieur a un geste pour montrer les seins. Là, c'est vraiment
comme ça. Et pour éviter les hommes.
Esatto. Evitare gli uomini a andare.
Ai gusti naturali. Pour faire retourner les hommes au goût naturel.
Au goût naturel.
Oui, entre guillemets, voilà.
Sur la bonne route.
Hein? Sur la bonne route.
Le bon route. Et il y a beaucoup de visiteurs aujourd'hui, il y a beaucoup de touristes qui viennent visiter.
Pas les visitatori. Il dit qu'il y a beaucoup, oui.
C'est un classique.
Un pèlerinage.
Un pèlerinage. Venezia.
Vous voyez qu'est-ce qu'il y a marqué sur son chapeau?
Sur le chapeau du patron, qu'est-ce qu'il y a écrit?
Non rompete, sinon vi avveleno. ne me dérangez pas, sinon je vais vous empoisonner.
Ici, a mangé Mitterrand.
Mitterrand, il a mangé ici. Et madame, est-ce que vous savez, parlez-moi du pont des Têtes.
Oui,
pont des Têtes.
Allora, e come faccio a parlare in francese? Io abitavo qui sull'angolo, no? Qualche volta d'estate stavo a guardare la gente
qui,
fuori, no?
Des fois à l'été, elle se mettait au dehors à regarder les gens qui passaient.
Passava la gente, leggeva Ponte delle Tete, guardavano me.
Oui, il y a gens passés, regardez, marqué Ponte delle Tete, et il a regardé comme ça.
Il vous regardez vous?
Si.
Eh, mais vous êtes super. Ouais. Alors, il est beau ça, la patronne, oui, hein, elle aurait pu être au balcon, là.
Voilà, merci à tous. Et n'empêche que c'est là que François Mitterrand a déjeuné au moins une fois. Nous aussi, on sait des choses. Il y a de quoi écrire un bouquin avec ce qu'on vient d'entendre là. Merci à tous. Merci à Monica Fantini. Merci aux camarades Lorenzo Giaparizzi et le portrait de Giorgio Bafo dans Le Diable amoureux de Guillaume Apollinaire, c'est aux éditions Gallimard. Et les œuvres érotiques de Giorgio Bafo, c'est aux éditions Zulma. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France, salle, la rubrique émission là-bas, si j'y suis. Technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Biclos, c'est Antoine Chao, Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Le Pascariello et de Christophe Imbert pour le répondeur dans le numéro 01 56 40 37 37. On se retrouve lundi à 17h pour la basse, si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Bruno Duvic. Salut.